Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, les nouveaux rendez-vous de la laïcité. L'émission d'aujourd'hui s'intitule « Prison, risques et avantages de la privatisation ». Pour en parler avec nous en studio, Juliette Béguin, Henri Cars, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose de faire un tour de l'actualité laïque en Belgique et dans le monde.
Chez nous, en Belgique, ça ne vous aura sans doute pas échappé, le nouveau gouvernement fédéral a connu des premières heures pour le moins chahutées. En cause notamment les propos de Yann Yambon et Théo Franken, respectivement ministre de l'Intérieur et secrétaire d'État à la politique d'asile et de migration, deux élus NVA qui ont chacun, à leur manière, cautionné ces derniers jours l'effet de collaboration durant la Seconde Guerre mondiale. Des prises de position inquiétantes que le Centre d'Action Laïque et son association constitutive Les Territoires de la Mémoire ont immédiatement tenu à dénoncer en rappelant que la collaboration avec l'occupant nazi ne pourra jamais être ni excusée ni justifiée. Curieux hasard du calendrier, ces déclarations des ministres NVA interviennent au moment même où les Territoires de la Mémoire inaugurent deux expositions exceptionnelles, l'art dégénéré selon Hitler et Notre combat, à voir à la Cité Miroir à Liège. Plus d'informations sur le site internet citémiroir.be ou par téléphone au 04 230 70 50. Belgique toujours, racisme encore. Une enquête menée par le quotidien gratuit Métro à Bruxelles et en Flandre révèle qu'une société de taxi sur deux répond positivement aux demandes de clients qui exigent d'avoir un chauffeur blanc pour une course. Une demande qui serait assez fréquente et qui pousserait donc les sociétés de taxi à pratiquer cette forme de discrimination, pourtant punie par la loi. Selon la secrétaire d'État bruxelloise à l'égalité des chances, Bianca De Baetz, cela se produirait tout aussi fréquemment lors de la location d'un appartement ou lors d'une demande d'embauche. Ainsi, plus de la moitié des personnes d'origine étrangère seraient confrontées à des comportements ou à des actions discriminantes en Belgique. Au chapitre international ou frontalier, c'est selon, signalons que le Luxembourg envisage plus que sérieusement de dépénaliser toute interruption volontaire de grossesse pratiquée avant la 12e semaine de grossesse. Ce changement législatif pourrait devenir réalité dès la fin novembre 2014, une avancée qui fait du bien, alors qu'ailleurs en Europe, le droit à l'avortement reste menacé par plusieurs gouvernements conservateurs.
La Belgique doit faire face aujourd'hui à une surpopulation carcérale problématique. 12 000 détenus pour une capacité d'environ 9 400 places. De nombreux acteurs et experts plaident pour une réforme en profondeur du système pénal et pénitentiaire pour mettre fin à cette escalade. Les pouvoirs publics répondent principalement à ce problème de surpopulation par la construction de nouvelles prisons réalisées via des partenariats publics-privés. La prison pose les problèmes de la vétusté, l'insalubrité, les violences entre prisonniers ou envers les agents pénitentiaires, la promiscuité des prévenus et des détenus, le manque de formation et de réinsertion. Autant d'éléments à considérer à la lumière des valeurs laïques que sont la dignité humaine, le respect, la justice, l'autonomie et l'émancipation. Henri Cars, vous êtes administrateur et conseiller moral de la Fondation pour l'assistance morale aux détenus. Vous visitez les prisonniers dans les établissements pénitentiaires. Que fait aujourd'hui la laïcité dans les prisons ?
Nous allons d'abord en prison comme conseiller moral pour écouter. Les détenus ont beaucoup besoin de parler de leur parcours, avant la prison, dans la prison, après la prison. Ils ont besoin d'une écoute et surtout d'une écoute hors hiérarchie. Donc c'est vraiment notre première mission, c'est d'être là, d'être disponible. Et puis quand on se connaît un peu mieux, on arrive alors à pouvoir discuter et ça devient évidemment alors un peu plus intéressant. On essaye d'amener le détenu à plus de lucidité, d'esprit critique sur lui-même, sur ce qui s'est passé, sur son caractère. On l'amène aussi, si c'est nécessaire, et c'est souvent le cas, à essayer de reprendre confiance en lui-même. On essaye de l'amener à trouver un peu d'empathie pour les autres, parce qu'il y a souvent un problème de ce côté-là. Et puis à comprendre aussi toutes les contraintes inhérentes à la vie en famille et en société. Et voilà, c'est essentiellement à partir de là alors qu'on parvient à construire toute une relation. D'accord. Sur la durée.
Il va de soi que lorsque vous parlez de relations avec les détenus sont libres de venir vers vous. Donc ils peuvent être athées, ils peuvent faire partie d'un culte. Tout le monde peut venir à vous, n'est-ce pas ?
Bien sûr, les détenus peuvent demander la visite d'un conseiller moral, d'un aumônier, de quelque confession que ce soit. Et nous arrivons sans savoir ni ce qu'ils ont commis, ni quelle est leur confession. Ils peuvent très bien... Moi, je vois des musulmans, par exemple, et tous mes collègues voient des musulmans. Ou des catholiques ou des protestants, la question n'est pas là. Du moment qu'ils le demandent, c'est leur liberté.
Juliette Beguin, vous êtes criminologue, membre de la commission prison de la Ligue des droits de l'homme et déléguée à la communication sociopolitique à Bruxelles Laïque. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous participez tous les deux au groupe de travail enfermement au centre d'Action Laïque. Je voulais vous demander, la dignité des personnes est-elle respectée dans la politique pénitentiaire d'aujourd'hui ?
Mais écoutez, en soi, moi j'estime qu'enfermer quelqu'un, c'est lui ôter sa dignité. Dans notre système, nous avons opté pour un système pénal. C'est un système afflictif, c'est-à-dire qu'on réagit en imposant des peines. Il s'agit donc bien de donner de la peine, donc de la souffrance. Et donc c'est un système qui décide de répondre au mal par le mal. La peine privative de liberté étant sans doute parmi les peines les plus cruelles et pourtant la peine de référence dans notre système de justice. Et une certaine chercheuse, Anne-Marie Marchetti, qui a fait une longue enquête sur les longues peines, elle définit ce lieu comme un lieu d'asservissement qui ne peut que pervertir ou démolir les hommes. Alors, très concrètement, aujourd'hui, la dignité des personnes est-elle mieux respectée ? Eh bien, nos prisons sont soit extrêmement vétustes, soit agencées dans une perspective quand même assez sécuritaire. Et le quotidien carcéral est quand même de plus en plus difficile à vivre. On a aussi dans le profil carcéral, Henri peut-être le confirmera, une augmentation aussi de cas psychiatriques qui n'ont aussi rien à y faire. Ça crée énormément de tensions. Et la surpopulation a des effets aussi désastreux sur les conditions de détention. Tout ça ne rend pas la question de la dignité positive. Je me demande d'ailleurs toujours, par rapport aux conditions de détention dans certaines prisons, comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus d'incidents, de suicides, de meurtres, d'émeutes ? C'est toujours une question qui me rend, enfin, une situation qui me rend perplexe. Alors, la dignité passe aussi par la question des droits des détenus. Alors, on peut évidemment, on peut concéder qu'il y a eu certaines améliorations dans les prisons. Mais nous avons voté pour une loi pénitentiaire en 2005 et cette loi est actuellement toujours pas d'application.
Je voudrais revenir sur ce dont vous nous parlez maintenant et en particulier reprendre un peu évidemment le fil du thème de l'émission d'aujourd'hui qui est la privatisation ou une forme de privatisation des publics privés des prisons. Mais avant ça, je voulais vous entendre, Henri Cars, et savoir si vous partagiez la vision de Juliette Beguin.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et je pense que ce qui est frappant en prison, c'est qu'on est quand même soumis à un système assez arbitraire et qu'on est peu protégé comme détenu. Les procédures disciplinaires, qui sont quand même pas rares, sont souvent expéditives, elles ne sont pas toujours contradictoires. Donc il y a déjà cet arbitraire, comment obtient-on du travail, c'est pas toujours très clair. Et puis il y a aussi tous les problèmes entre détenus. La prison engendre de la violence et donc de la peur. Il y a du racket, et donc je pense que ça aussi c'est contraire à la dignité de quelqu'un d'être soumis à un système qui fait qu'on ne vit pas normalement et l'administration fait très peu pour contrer ce genre de problèmes en prison.
On a vraiment l'impression à vous entendre que la prison passe tout à fait à côté, l'enfermement passe tout à fait à côté de son objectif. On pourra parler tout à l'heure de la réinsertion et de la formation en prison. Pour en revenir au thème de l'émission d'aujourd'hui, donc prison, risque et avantages de la privatisation, la construction des nouvelles prisons a été confiée à des entreprises dans le cadre de partenariats public-privé. Les infrastructures de Marche-en-Famenne et Leuze-en-Hainaut fonctionnent déjà sur ce modèle. Certains services de maintenance sont gérés par des sociétés privées. En quoi le fonctionnement de ce type d'établissement pénitentiaire diffère des établissements classiques, Henri Cars ?
Mais essentiellement, en tout cas dans le système actuel, pour la maintenance. C'est une firme extérieure qui s'occupe de la maintenance. Ça a l'avantage que c'est plus réactif, plus rapide que quand c'est la régie pénitentiaire elle-même qui doit intervenir. Maintenant, elle gère aussi, le privé gère aussi la cuisine, la buanderie par exemple, qui a évidemment des impératifs de rentabilité. Et donc, je veux dire, les détenus qui y travaillent, ils travaillent dans d'autres conditions que dans les prisons classiques, disons.
Ok, donc ça veut dire que si, jusqu'à présent, s'il est seulement question de maintenance et de gestion de choses, disons, vraiment très concrètes, vous êtes plutôt favorable alors à cette forme de gestion ?
Disons que si on sait qu'un évier qui est bouché sera réparé dans les 24 heures, ou une douche qui ne fonctionne pas bien, ou il n'y a pas d'eau chaude, sera réparée rapidement, tant mieux. Comme ce qu'on voit dans d'autres prisons, c'est qu'il faut attendre une semaine. Donc de ce point de vue-là, le détenu, il est content, et nous aussi. Mais bon, ça c'est un seul aspect de la chose. Il y a tout l'aspect gestion par le privé d'une institution publique, plus l'aspect coût, évidemment.
D'accord. Juliette Beguin, est-ce que vous pensez que d'autres services pourraient, dans le futur, être assurés par des sociétés privées ? Et est-ce que cela pose des questions sur le plan éthique, par exemple ?
C'est difficile de répondre à cette question puisqu'il s'agit de choix politiques. On peut craindre qu'avec le gouvernement actuel, cette tendance privative va croître. Le problème éthique est pourtant très simple. Henri a un petit peu abordé la question. Si on privatise, on n'est plus dans un cadre d'intérêt général, mais on est dans un cadre marchand. Donc le détenu devient en quelque sorte le client. Il faut donc qu'il y ait un maximum de clients. Il n'y a donc plus de raison de tout mettre en œuvre pour diminuer l'inflation carcérale, ni de se poser des questions sur le sens ou non de la détention. Donc le problème éthique est évident pour moi.
La prison de Haron, qui est aujourd'hui vigoureusement contestée, sera gérée en ce qu'on appelle PPT, donc ce partenariat public-privé. Cette gestion représente un surcoût qui s'explique par le fait que les entreprises privées présentes en prison doivent dégager, comme le disait Juliette Beguin, une marge bénéficiaire. Donc tout détenu excédentaire dans une prison de type PPP pourrait rejoindre les prisons classiques suroccupées, vous le disiez tout à l'heure, pour des questions d'économie budgétaire. Donc là, si on fantasme un peu, on peut s'effrayer en pensant à une prison à deux vitesses.
Oui, enfin, moi, je répondrai en disant qu'on a déjà une justice à deux vitesses. Alors, une prison à deux vitesses, je pense, ne va émouvoir sans doute que les personnes directement concernées, c'est-à-dire les détenus et leurs proches. Mais je me pose des questions sur où ira la préférence des détenus. Les prisons actuelles sont en général construites, ces prisons modernes, en dehors de la ville. L'accès à ces prisons sont très difficiles. Il y a énormément de conséquences pour les familles qui ont du mal à aller visiter leurs proches. Au niveau des droits de la défense, les avocats ont difficile aussi à se rendre dans des lieux très éloignés, les services extérieurs. Donc il y a toute une série de conséquences qui fait que ces prisons ne sont pas non plus, outre les questions de maintenance ou de modernité, les prisons les préférées des détenus.
Oui, c'est vrai, la question reste posée. Est-ce qu'il y a, selon vous, une tendance davantage sécuritaire dans les politiques carcérales actuelles ?
Oui, je pense de manière assez générale, et ça vient aussi pas mal du Canada, on a vraiment cette tendance à vouloir catégoriser les détenus, à renforcer les dispositifs sécuritaires. Alors, selon moi, on va droit dans le mur. Je ne suis pas naïve. Je sais qu'il y a des détenus qui sont difficiles à gérer.
Le problème... Je fais juste une petite parenthèse, oui, en disant que, pour le grand public, évidemment, il y a des détenus qui font de la préventive, il y a des femmes dans certaines prisons, il y a des mineurs. Donc, parfois, il y a un mélange très particulier qui, pour nous, public généraliste, semble très, très interpellant.
Oui, il y a un mélange, mais les prévenus, les condamnés sont mélangés pour des questions de surpopulation. Mais le profil général de la population pénitentiaire, c'est quand même surtout des hommes qui ont des trajectoires difficiles au niveau scolaire, des problèmes socio-économiques, etc. Donc c'est une population très vulnérable et c'est un petit peu la pénalisation des pauvres, hein, comme on dit. Donc... ça c'est le profil moyen. En attendant, on peut être dangereux, vite dangereux en prison, le devenir. Et la notion de dangerosité est un concept très difficile à cerner. Et une fois qu'on a une étiquette comme ça en prison, il est très difficile de s'en débarrasser. Alors si on met des dispositifs sécuritaires en essayant de catégoriser les détenus, je pense qu'on va se retrouver dans des situations très très difficiles. Je parlais hier avec Nicolas Cohen, qui était de l'Observatoire international des prisons, qui racontait d'un client à lui qui était très très difficile à gérer et qu'on a mis dans des isolements pas possibles, on l'a torturé, etc. Et que finalement, cette personne pétait de plus en plus les plombs, donc on est dans une escalade, et qu'à un moment donné, il a changé de prison, il a eu un régime assez commun et normal, et toute sa violence est descendue. Donc je suis toujours très craintive à l'idée de mettre des étiquettes sur ces personnes.
Henri Cars, cette forme de partenariat public-privé des prisons, est-ce qu'elle a des implications sur votre exercice qui est l'exercice de l'assistance morale en prison ?
Pas directement, en tout cas pas dans les conditions actuelles. Évidemment, c'est à condition que l'on ne touche pas à l'encadrement et à la surveillance. Si on devait privatiser l'encadrement et la surveillance, là je verrais les choses tout à fait autrement. Pour le reste, c'est une question philosophique et une question de politique pénitentiaire, mais pour l'exercice de l'assistance morale, nous allons en général dans la cellule du détenu, on s'assied, on parle avec lui pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure et demie. Qu'il y ait une firme privée qui s'occupe de la maintenance ou pas, ça n'intervient pas dans l'exercice quotidien de nos fonctions, à condition, je le répète, que ça ne touche pas à l'encadrement, à la surveillance.
Vous vouliez réagir par rapport à cela ? En tout cas, la politique de réinsertion, est-ce qu'elle va s'inscrire différemment dans un modèle de prison partiellement privatisé ?
Alors, je ne sais pas en quoi cette politique changera ou non dans un tel modèle, puisque pour moi, il n'existe pas de politique de réinsertion réellement. Donc, c'est une des fonctions nobles qu'on tente de donner à la peine privative de liberté, mais qui pour moi est une sorte de vernis pour tenter de légitimer le fait que la prison, finalement, existe toujours. Je vais donner un exemple. Lorsque, à un moment donné, on a conféré aux communautés, aux régions, l'aide aux détenus, eh bien, 90% du budget est resté au fédéral et seulement 10% est passé à l'aide aux détenus. Or, ce sont ces services-là qui rentrent en prison pour aider et accompagner les détenus pour leur réinsertion. Il n'y a pas de politique cohérente en Belgique autour de ces questions de réinsertion. Selon une prison, eh bien, les services seront très nombreux, actifs. Dans d'autres prisons, il n'y a rien. Donc, il n'y a aucune cohérence dans cette politique-là.
Je fais une parenthèse en disant que c'est un des droits fondamentaux du prisonnier. C'est un de ses droit, n'est-ce pas, de pouvoir accéder à une réinsertion et à une formation.
Oui, mais c'est même aussi l'intérêt de la société tout court, bien sûr, hein, que les gens sortent mieux disposés de prison qu'ils ne sont rentrés en prison. Et pour ça, il faut les prendre en charge. Il faudrait d'abord qu'il y ait au moins un plan de détention. Et ce plan de détention, il est prévu dans la loi, mais il n'est pas mis en application.
Vous vouliez continuer votre raisonnement, Gilles Béguin ?
Oui,
je vous ai
tout
interrompu.
À fait. Les principes de la loi sont très clairs. Réinsérer, réhabiliter, réparer. Mais les services extérieurs, comme je le disais, ont peu de moyens. Et ils ont aussi un rapport de force très défavorable. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait des grèves, et il y en a beaucoup en Belgique, du personnel. Il suffit qu'il y ait n'importe quel événement. Eh bien, ces services vont être... L'accès aux prisons vont être refusés. Ils ne vont pas pouvoir faire leur boulot. Et donc, il y a un rapport de force qui est quand même complètement disproportionné et qui n'est pas normal lorsqu'on voit les fonctions qu'on veut donner à la peine privative de liberté. Alors, juste aussi un petit élément que je trouvais très intéressant, c'est qu'on a montré, certaines études ont montré que les détenus qui sont les plus difficiles, qui se rebellent, qui ont un comportement disciplinaire difficile, c'est souvent ceux qui se réinsèrent le mieux. Et donc ça, on l'oublie souvent. Mais je pensais que c'était intéressant de le rappeler.
Et quel est l'algorithme selon vous ?
C'est-à-dire, c'est une question de nouveau de dignité, d'estime de soi. C'est-à-dire que l'enfermement est extrêmement mortifère et pathogène, très infantilisant. On perd, on est privé de plein de choses. On n'est pas que privé de sa liberté. Et donc, si on se laisse engloutir par ce système, on perd son identité, on perd un tas de choses qui fait qu'on on perd l'estime de soi. Et ceux qui arrivent à ne pas se faire broyer par cette machine qu'est la prison, finalement, en sortant, auront une force de réadaptation plus facile.
Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que ça manque un peu de justice. C'est que selon que vous êtes dans une prison ou dans une autre, vous aurez des services d'aide aux justiciables qui ne seront pas toujours les mêmes, qui ne vont pas être équivalents d'une prison à l'autre. Vous n'aurez pas exactement les mêmes cours, le même type d'aide. Ça, c'est déjà pas normal, d'autant plus qu'il y a quand même régulièrement des transferts. Et il faut savoir aussi que les services psychosociaux de la prison ne sont pratiquement pas là pour aider les détenus. Ils sont là pour faire de l'évaluation, là. Donc, toute l'aide va venir d'organismes extérieurs.
De l'évaluation de quoi ?
L'évaluation de la dangerosité du détenu. Parce que lorsqu'il s'agira de savoir s'il peut sortir en congé, par exemple, ou carrément en bracelet ou en surveillance, en libération conditionnelle, on a besoin d'un rapport psychosocial. Et donc ça, c'est de l'évaluation, mais ce n'est pas de l'aide.
Et ce qui est, juste pour rajouter quelque chose, ce qui est incroyable par rapport au fait que le détenu il devrait sortir sous condition et que les conditions sont souvent très difficiles, et on met énormément de responsabilités sur le détenu en disant vous devez prouver vos efforts de réinsertion sans lui en donner les moyens. Alors on peut se demander aussi un petit peu de qui on se fout dans cette histoire.
Mais oui, on revient au problème de base, c'est qu'il n'y a pas de plan de détention, il n'y a pas de prise en charge cohérente en tout cas du détenu lorsqu'il rentre en prison, et souvent on ne s'occupe de lui qu'à partir du moment où il approche du délai pour obtenir un congé ou pour obtenir une libération conditionnelle. Mais si ce délai est long, il risque de, s'il veut rester dans son coin pendant 3 ou 4 ans, on va le laisser dans son coin, et ça c'est anormal.
Je fais une parenthèse parce que certaines personnes peuvent penser qu'on parle des détenus et qu'on ne parle pas des victimes. Dans les statistiques, on dit que la plupart des victimes ne sont pas du tout satisfaites de voir leur agresseur ou la personne incriminée en prison. Donc, je crois que c'est important de le souligner aussi. On n'oublie pas, dans ce débat aujourd'hui, on incorpore aussi les victimes, n'est-ce pas, Juliette Beguin ?
Tout à fait. Et vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que des études montrent récentes aussi de l'INCC, qui est l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie, où les personnes travaillent sur les victimes en essayant de comprendre. Effectivement, les victimes ne souhaitent pas spécialement que les personnes soient enfermées. C'est plutôt un besoin de reconnaissance de ce qui s'est passé, de comprendre, mais on manque énormément de créativité pour trouver d'autres solutions par rapport à des situations problématiques, la médiation étant par exemple une solution très intéressante qui n'est pas assez exploitée.
Tout à fait, oui, je crois que c'est ça le problème aussi, c'est que la médiation existe, mais encore faut-il la mettre en pratique concrètement. Et ce n'est pas toujours facile, évidemment, pour une victime d'être mise en présence de l'auteur des faits, ni pour l'auteur des faits, d'ailleurs, d'accepter d'être mis devant ses responsabilités en rencontrant la personne à qui il a causé du tort. Mais il faut, c'est le seul moyen d'apaiser les tensions sociales qui mène ou auquel on menait la délinquance.
Et quand on connaît la prison, si moi un jour je suis victime, j'ai sûrement déjà été, mais en tout cas victime de quelque chose, je ne voudrais pas que la personne aille en prison parce que je connais la prison. Et la prison aussi, les détenus aussi se disent victimes, et donc on est dans un non-sens. Et il y a très peu de possibilités de se remettre en question dans un lieu comme la prison.
Mais d'un autre côté, je pense que nous avons quand même en nous une pulsion de punition et de vengeance que nous devons essayer de maîtriser aussi. Il y a ça, ça fait partie de la nature humaine. Et justement, la médiation, elle permet de dépasser ce stade. Et il ne faut pas justement faire le contraire et encourager les gens à demander toujours des peines plus lourdes et de garder les gens en prison plus longtemps, parce qu'il y a aussi une tendance comme ça dans certains partis politiques et d'ailleurs dans beaucoup de partis politiques et également dans la population, et on ne fait pas assez de pédagogie contre cette tendance.
Au contraire même, on stimule la peur.
Julie Béguin, vous nous parliez justement des points déficitaires de notre système pénitentiaire. Est-ce qu'on peut aller regarder vers des pays voisins, peut-être en Europe, et voir si d'autres modèles fonctionnent mieux que les nôtres ?
Oui, parce que clairement, en Europe, on est dans des politiques expansionnistes, donc on construit de plus en plus de prisons en sachant que ça ne sert à rien et que ça ne résout absolument pas le problème de la surpopulation. Et donc, nous, on œuvre au CAL, dans le mouvement laïque, pour des politiques réductionnistes. Et d'autres pays, à contre-courant, l'ont fait. Alors, la Finlande, de 1970 à 2000, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont multiplié les recherches, les études sur le coût de la prison, sur les résultats de la prison, sur le poids néfaste du châtiment, sur la culture et le bien-être d'un pays. Et ils ont choisi d'éviter l'incarcération dans toute la mesure du possible. Et pour ça, ils ont fait un vrai travail d'information constante auprès des hommes politiques et auprès d'une attention. Ils ont aussi fait un travail auprès des médias, justement, pour dire arrêtez de jouer avec la peur, arrêtez de jouer avec l'émotion. On va informer l'opinion publique sur le fait que la punition n'est pas la solution.
Juliette Béguin et Henri Cars, quelles sont les grandes priorités du moment, selon vous, en matière de politique pénale et carcérale et qui doit être entendue des politiques?
Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut, de toute façon, si prison il y a, il faut qu'en prison, il y ait un plan de détention, qu'on prenne les gens en charge, qu'on les amène à quelque chose, qu'on les accompagne. Donc, il faut changer les mentalités en prison et du côté politique, bien sûr, aussi. Il faut aussi changer la mentalité et les missions du personnel pénitentiaire qui doit être là davantage pour encadrer et moins pour ouvrir et fermer des portes et faire respecter un règlement. Et puis, je pense qu'il faut aussi mieux encadrer cette sous-culture carcérale négative, la violence entre les détenus, qui est contraire à la dignité, et puis qui empêche aussi de sortir de prison en ayant une mentalité quand même un peu meilleure ou redressée. Et puis, surtout aussi, c'est très important, qu'il y ait une offre plus sérieuse, plus complète de cours et de formation en prison, et moins de dispersion, et moins de... Un paysage plus coordonné, plus cohérent dans l'ensemble du pays, parce qu'on est souvent amené à être transféré d'une prison à l'autre et on se retrouve dans l'incapacité de continuer le cours ou la formation qu'on a entamé.
Je pense qu'il faut, pour ma part, vraiment mettre la priorité sur les politiques pénales. Il faut une politique réductionniste, il faut dépénaliser toute une série d'infractions pour faire en sorte que de moins de personnes soient prises dans le filet pénal. Il y a d'autres solutions qui existent. Il faudrait limiter la privation de liberté aux seuls cas les plus graves. On a parlé tout à l'heure de médiation. Moi, à terme, je serais de l'avis de Françoise Tulkens, ex-vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit une chose intéressante. Elle dit un jour, on va supprimer les prisons. Et puis, on se rendra compte que c'était un acte barbare, comme l'était la torture jadis. Alors, supprimons les prisons à long terme, ça c'est mon avis personnel. Ce qui n'empêche pas, comme le dit Henri, de combattre pour adoucir la vie carcérale. Je rappellerai les mots de Catherine Becker, qui a écrit un manifeste pour l'abolition des prisons. Elle dit « Les biologistes qui luttent contre le cancer ne ricanent pas lorsque d'autres humblement se penchent sur le problème des nausées de la chimiothérapie. »
Oui, je pense qu'il faut aussi réagir contre cette tendance actuelle à alourdir les peines constamment. On est dans cette tendance-là et on la retrouve d'ailleurs encore malheureusement dans l'accord de gouvernement. C'est quelque chose d'important, c'est de ne pas maintenir les gens en prison au-delà de tout terme raisonnable, enfin comme on en a pris le pli.
Oui, on se rend compte que les prisons en 4 étoiles, avec télévision, etc., ont encore la vie dure, malheureusement, dans certaines mentalités, n'est-ce pas?
C'est pour ça que je voulais vous remercier pour cette émission. Je pense que un angle de travail intéressant, c'est justement la sensibilisation des gens, comme vous le faites, comme nous le faisons aussi au Festival des Libertés, où il y a eu pas mal de débats, où Henri était présent d'ailleurs sur la question. Voilà, on pose des graines et il faut petit à petit en parler de plus en plus.
Je pense que la prison telle qu'elle existe est nocive pour le détenu en prison, mais ça se prolonge au-delà de sa détention. Et donc, ce n'est pas dans l'intérêt du détenu, mais ce n'est pas non plus dans l'intérêt de la société. Il faut qu'on comprenne tous les effets nocifs de la prison quand on y est et encore après quand on en sort. Et ça coûte pourtant beaucoup d'argent. Voilà, c'est sur cette question-là qu'on doit se pencher. C'est dans l'intérêt de tout le monde.
Juliette Béguin, Henri Cars, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous pourrez être entendus des politiques.
Merci.
Merci.
Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.